C'est ça. Bonjour, bonjour. C'est bon? Ok, je t'en remercie. Yes. Est-ce que je peux avoir... Oui, merci.
Il est là.
Oui, parfait. Bonjour à tous, bonjour. Il est 9h02, désolé du petit retard. On est un petit groupe ce matin, donc je compte sur votre participation. Avant cela, on va commencer dans la prière. Père éternel, on veut te dire merci pour qui tu es, ce Dieu créateur du ciel et de la terre, ce Dieu qui était avant toute chose. Ce Dieu qui nous donne la neige, le beau soleil de ce matin, et Seigneur, on te remet nos vies entre tes mains. Seigneur, on te demande de nous parler ce matin à travers les doctrines de la persévérance et de la glorification, et aussi de la prédication. Seigneur, oui, merci, parce que c'est ton esprit qui agit en nous, non par nos propres forces, mais par toi seul. Donc, Seigneur, guide-nous, et que toute la gloire te soit rendue, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc on continue notre série sur le livre de Paul Tripp, « Croyez-vous vraiment ?» Et on a vu plusieurs leçons sur les différentes doctrines et on arrive vers la fin. On arrive vers la fin de ce livre et aussi des différentes doctrines. Et ce matin, on va aller sur les deux doctrines de la persévérance et de la glorification. Donc rappelez-vous, on était sur la sanctification. Et je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'on parle de persévérance, à quoi vous pensez? Quelques-uns qui peuvent participer.
Rester dans les voies de Dieu.
Nicole, spirituel, direct. C'est bon. D'autres avis?
Continuer à avancer malgré les épreuves.
Ah, c'est bon, c'est bon. Je suis moins spirituel que vous, là, aujourd'hui, parce que je pense que moi, quand j'ai grandi, la persévérance, je la liais au sport. Je ne sais pas pour vous, mais peut-être que quand on parle de persévérance, vous parlez aussi du travail, des études, des relations. Et souvent, la notion de persévérance, comme on dit avec Nicole et Céline, on a du mal à voir comment on persévère dans la vie chrétienne. Il y a quelques jours, j'étais à un événement de sport et beaucoup d'athlètes parlaient de la persévérance dans leur marche à aller aux Jeux Olympiques. Je pense que nous, en tant que Montréalais, on est contents de voir les Canadiens gagner les playoffs et on voit qu'ils persévèrent d'année en année depuis 1993 pour une Stanley Cup. Et donc, la notion de persévérance, certaines fois, on peut l'assimiler à des efforts personnels. Vous êtes d'accord? Que ce soit un athlète qui persévère semaine après semaine dans ses entraînements, ou que ce soit un étudiant qui persévère dans ses études, ou un mariage qui persévère dans l'amour, souvent dans notre définition aujourd'hui, on a tendance à dire que c'est moi. Moi qui persévère. Vous comprenez? Mais dans la vie chrétienne, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les deux doctrines, c'est que la persévérance vient d'une autre source. Elle ne vient pas de nous, mais elle vient de Dieu. Les objectifs de ce matin, si tu peux passer, Monica, je te remercie, c'est de définir premièrement la persévérance et la source des efforts. Vous pouvez suivre sur le cours. Deuxièmement, c'est de définir la relation entre la persévérance et le salut. définir ensuite les ennemis dans la marche chrétienne, la nature de la glorification et le moment de la glorification. Et quelques versets clés pour ce matin, c'est pour la persévérance, en Hébreux, chapitre 10, verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté du Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » En Actes 2, 42, il disait des apôtres et des disciples qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et un verset qui va aussi porter notre attention ce matin, c'est en Matthieu 24, 13, qui dit « Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. » On peut aussi dire que celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Pour la glorification, trois versets, deux actuellement, qui dit en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, « En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous, nous serons changés. » L'apôtre Paul en Philippiens chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Les problématiques qu'on rencontre par rapport à la persévérance sont toujours souvent les mêmes. Premièrement, c'est est-ce que la persévérance est une condition pour le salut ? On a lu en Matthieu chapitre 24, verset 13, que celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Donc, est-ce que la persévérance est une condition pour le salut ? Qu'est-ce qui arrive pour celui qui ne persévère pas ? Deuxième, c'est quel est l'objectif de la persévérance dans la marche chrétienne ? Troisième, c'est si le chrétien est déjà sauvé, pourquoi doit-il persévérer pour un statut qu'il a déjà ? Pour la glorification, qu'est-ce que la glorification et sa nature ? Lorsque le chrétien meurt, arrive-t-il déjà à l'état de glorification ? Et troisième, quand est-ce que la glorification survient ? La première doctrine sera sur la persévérance, et on parle souvent, quand on parle de persévérance, de la persévérance des saints. La persévérance des saints, elle est contraire à notre culture occidentale, où on est sur la méritocratie. Tu as bien travaillé cette année, tu mérites ton diplôme. Tu as eu ta maîtrise, tu mérites ton travail. Il y a un domaine qui est très mes efforts, mes objectifs, ma réussite. Mais dans la foi chrétienne, nous savons que tout n'est que grâce et que ce soit par rapport à cette notion de persévérance, il y a un changement de pensée. Il y a un changement de pensée dans le sens où la seule chose dont on persévère de notre chair, c'est dans le péché. La seule chose dont on est capable, par nos propres forces, c'est de persévérer dans le péché. Ce n'est que Dieu, par son esprit, qui nous permet de persévérer dans la foi chrétienne. Vous comprenez ? Et donc, c'est un changement que ce n'est pas par nos propres forces, notre propre volonté. Et c'est là où la théologie aussi est importante. On dit souvent qu'il y a la théologie calviniste, que tout vient de Dieu, tout est par Dieu, pour Dieu, et la théologie arménienne qui dit « l'homme a le choix ». L'homme a le choix de choisir Dieu, si je peux grossir un peu les traits. Et donc, ça définit toute notre vision de Dieu. Est-ce que l'homme choisit Dieu alors qu'il est pécheur, sale, attaché à son péché ? Ou est-ce que c'est Dieu qui vient nous délivrer, lui qui est saint, par Jésus-Christ, et nous racheter ? Et donc, cette notion de persévérance, si notre vision de Dieu et du salut est différente selon notre théologie, ben notre salut aussi peut être différent. Si je ne persévère pas, ça veut dire que je perds mon salut. Si, vous comprenez ou pas ? Donc, notre vision, c'est vraiment que seul Dieu produit la persévérance en nous. Paul Tripp définit dans son livre que cette doctrine ne dépend pas du propre arbitre d'une personne, mais elle dépend du choix immuable de Dieu qui découle de l'amour libre et immuable de Dieu le Père, de l'efficacité du mérite et de l'intercession de Jésus, de l'Esprit qui habite en eux, ainsi que de la semence de Dieu plantée en eux et de la nature de l'Alliance de la grâce. En d'autres mots, la seule source de notre persévérance, les amis, c'est l'amour de Dieu pour nous. C'est cet amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ qui est notre source de notre persévérance. Ce n'est pas notre amour pour lui, bien que on peut s'attacher à cet amour qu'on a pour Dieu pour persévérer, mais premièrement, c'est l'amour de Dieu pour nous qui étions méchants, pécheurs, ennemis de Dieu, attachés à nos addictions, à nos péchés, à toutes nos formes de désirs humains, mais qui a porté notre regard et qui a envoyé Jésus-Christ pour laver nos péchés, pour nous purifier, pour nous sauver. Et donc, c'est cet amour de Dieu le Père manifesté en Jésus-Christ qui nous donne le moteur de persévérer dans la foi. Dans notre culture où c'est l'homme qui est le compétent, qui a la persévérance pour atteindre son objectif, dans la doctrine de la persévérance des saints, comme vous pouvez voir, c'est que c'est Dieu, la source ultime, qui donne la persévérance à l'homme pour que l'homme puisse atteindre l'objectif final, qui est Dieu lui-même. Il dit que c'est le salut est initié par Dieu, poursuivi par Dieu et mené à son accomplissement par Dieu. La définition de Westminster sur la persévérance des saints, c'est ce que Dieu a accepté en son bien-aimé, qu'il a efficacement appelé et sanctifié par son esprit, ne peuvent déchoir de l'état de grâce ni entièrement ni définitivement, mais ils y persévéreront certainement jusqu'à la fin et seront éternellement sauvés. Notre motto, c'est d'être émerveillé par l'évangile de Jésus-Christ. Et donc, c'est cet émerveillement, c'est ce salut qui est offert par Jésus qui nous pousse à persévérer. De se rappeler comme l'apôtre Paul qui était le premier des pécheurs, il se rappelle de son état pécheur et il se remémore tous les jours de la grâce de Dieu en Jésus-Christ et qui se dit, c'est ça qui m'aide à continuer malgré les défis, malgré l'emprisonnement, malgré la persécution. C'est parce que nous sommes sauvés que nous persévérons et non pas le contraire. Comprenez ? La persévérance n'est donc pas une condition au salut, mais bien un résultat du salut. Et la persévérance a pour objectif le salut pleinement garanti au retour de Christ. L'apôtre Paul, en 2 Timothée 2, nous parle de trois exemples sur la persévérance. Rappelez-vous, il parlait dans cette dernière lettre avant sa mort à son disciple Timothée sur trois types de personnes qui sont les athlètes, les soldats et les agriculteurs. Quand on est un athlète, on sait qu'on doit performer physiquement, on doit s'entraîner quotidiennement, se lever le matin, aller courir lorsque tout le monde dort, se coucher le soir quand tout le monde dort aussi. Mais qu'en est-il de la foi chrétienne ? Qu'en est-il du chrétien ? En quoi nous devons persévérer, mes chers frères et sœurs ? Dans la deuxième partie, c'est de persévérer, oui, mais dans quoi ? Et dans la parole de Dieu, on voit dès le livre des Actes, l'établissement de l'Église. En Actes 2, chapitre 2, verset 42, les disciples persévéraient sur quatre choses. Et ces choses-là n'ont pas changé 2000 ans après. C'est les mêmes moyens de grâce que Dieu utilise pour faire grandir son Église et pour aider les chrétiens à persévérer. Il disait qu'il y avait l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Lorsqu'on parle de l'enseignement, on peut penser que c'est un commandement nouveau, parce qu'auparavant, ils n'avaient peut-être pas l'entièreté de l'Ancien Testament, mais, Non, dès le début, en Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 3, que vous pouvez voir sur l'imprimé, que Dieu avait déjà commandé à Moïse de s'enseigner les uns les autres et de mettre en pratique, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Donc l'enseignement a une place centrale dans la vie de famille. Là, on ne parle même pas de l'église, le bâtiment peut-être qu'on peut penser, mais on parle du foyer. On parle d'un peuple nomade, mais qui avait l'enseignement dans leur famille, dans leur foyer. On parle du fils, du petit-fils, et donc c'est un enseignement collectif que Dieu nous ordonne. Et que c'est la discipline dans la méditation, dans l'enseignement, dans la mémorisation, qui était déjà vécue dans les foyers. Souvent, peut-être qu'on a du mal à ouvrir nos Bibles, et peut-être on a encore plus de mal à ouvrir nos Bibles avec nos enfants, nos neveux, nos nièces. Mais pourtant, c'est ça quand la parole de Dieu vient rentrer dans la vie d'un foyer, et que la parole de Dieu transforme le foyer, la famille, et qu'ensuite l'Église est aussi transformée. Et donc aussi en 1 Jean, vers la fin du Nouveau Testament, Jean nous dit que l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. 1 Jean, chapitre 2, versets 3 à 5. Donc, persévérer dans l'enseignement. Deuxième, ils disent de persévérer dans la communion fraternelle. Il y a une chose qu'on découvre, c'est que la vie va très vite au Québec. Oh là là, en plus, avec les enfants, on attend tout le temps la Saint-Jean ou la semaine de relâche. Mais les emplois du temps sont très occupés à chacun. Du lundi au vendredi, si les enfants ont des activités le samedi, le dimanche, et rebelote, et rebelote, et rebelote, et rebelote. Et donc, on peut se dire que des fois, les temps de l'Église sont optionnels. On peut se dire que j'ai tellement un emploi du temps chargé que le groupe de maison, les réunions de prière, les temps d'école du dimanche ou de réunion de membres, c'est optionnel par rapport à ma priorité. Mais non, on voit bien que c'est un commandement que Dieu nous donne de persévérer ensemble, d'avoir des temps ensemble. Il y a une chose qu'on voit quand nos frères et sœurs viennent d'Afrique ou d'Amérique latine, c'est ce désir de communauté, ce désir d'être ensemble, de tout partager lorsqu'on reçoit quelque chose. Et c'est ce que disent aussi les missiologues, qu'en 2050, selon les tendances démographiques et la propagation de l'Évangile, que l'Afrique, d'ici 2050, représentera 50% des chrétiens dans le monde. Parce qu'à cette notion de communauté, lorsque un père vient au Seigneur, c'est toute la famille qui écoute la parole de Dieu, qui prie ensemble. Il y a cette notion de communauté, lorsqu'un musulman vient au Seigneur, il est persécuté par sa famille, mais il retrouve la famille qui est l'Église. Et donc, c'est aussi notre désir, ici à l'Église Espoir, de persévérer dans nos emplois du temps, de nous rendre disponibles, d'être intentionnel dans les groupes de connexion, dans les groupes de prière, dans les temps où on peut s'entraider les uns les autres. Et on voit aussi dans Actes 2, chapitre 2, versets 46 et 47, qu'ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et qu'est-ce qui se passait ? Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Et donc, il y a cette notion de famille, de proximité, et les trois notions qu'on a à l'Église Espoir, qui sont la spiritualité, l'hospitalité et la transmission, participent à la persévérance des saints. Troisième, c'est la prière. La prière que Dieu nous ordonne pour pouvoir continuer à persévérer. Et malheureusement, il est écrit que nombreux d'entre nous ne voient pas la prière comme un puissant outil dans les mains de Dieu. ayant pour but de nous garder proches et en sécurité, de garder nos cœurs loin du péché et de grandir dans notre affection pour notre Seigneur et nous engager dans son œuvre historique et géographique de son royaume, dit Paul Tripp. Jésus lui-même, lorsqu'il était sur terre, prenait du temps pour se retirer et prier. Et il a appris aussi à ses disciples de prier en communauté. Je dis souvent que la vie chrétienne n'est pas un « mon père », c'est « ma relation ». Souvent, dans notre culture, c'est entre moi et Dieu, c'est « ma relation ». Mais Jésus nous laisse dans sa prière, c'est « notre père ». Il aurait pu dire c'est ta responsabilité avec Dieu, mais non, il y a une notion collective qui est instaurée dans la prière, que notre Père qui est aux cieux. Et donc, Paul nous dit de prier sans cesse, de prier pour les saints, de prier pour des occasions d'annoncer la parole de Dieu. Et bien sûr, le quatrième, c'est la Sainte Cène, l'ordonnance qui a été donnée par Christ en Jean 14 avant de mourir sur la croix, qui nous rappelle à chaque fois de sa mort et de son sang qu'il a versé. Et c'est ça qui permet avec le baptême de continuellement grandir dans notre foi, de toujours se dire c'est l'Évangile, que par la grâce, non par mes propres efforts, mais que par la grâce manifestée en Jésus-Christ. Persévérer dans ces quatre éléments, mais persévérer contre quoi ? Lorsque on est un joueur de hockey et qu'on a les lightning en face de nous, on a un ennemi, entre guillemets, right? On a quelqu'un qu'on veut battre, on a étudié cet adversaire, on a étudié ses coups, ses meilleurs joueurs. Et donc, dans la vie chrétienne, c'est la même chose. On a des ennemis. Luther nous parle de trois ennemis qui sont en Éphésiens 2. La manière de vivre de ce monde, le chef des puissances spirituelles mauvaises et la vie selon les mauvais désirs. En Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, il est dit que « autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suivez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, nous étions, nous, par nature, voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. » Cette triade, c'est Satan, le monde et la chair. Satan, il est écrit qu'il vient pour dérober, il vient pour dévorer, il vient pour arracher les personnes et les amener à la perdition et à la condamnation et à la mort. Et dans notre société, lorsqu'on parle de Satan, on a souvent deux tendances qui sont un peu les extrêmes. On a tendance à soit minimiser la personne et l'œuvre de Satan, de dire « Ah, mais Satan, il existe peut-être même pas, mais je vis ma vie avec Dieu et je laisse Satan. » Et la deuxième, c'est de trop voir Satan partout. Aujourd'hui, il pleut, je devais aller là-bas, Satan, il est contre moi. Et donc, nous, c'est d'avoir une vision claire de Satan qui est vaincu sur la croix et qui sera vaincu lors du retour de Christ. Et en même temps, il est là en train d'œuvrer, en train de mettre des pièges pour soumettre des personnes à sa volonté, comme dit 2 Timothée chapitre 2, verset 26. On a aussi cette parabole du semeur en Luc 8, que lorsque vous rappelez, il y a quatre types de personnes qui reçoivent la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Et Satan, qu'est-ce qu'il vient faire ? En Luc 8, verset 11-12, il vient enlever la parole du cœur de cette personne pour qu'il ne croie pas et ne soit pas sauvé. Donc, quand on parle de Satan, c'est d'avoir une juste vision de cette personne qui est une créature. Le deuxième, c'est le monde et ses attraits. La manière de vivre de ce monde Et Satan utilise bien des subterfuges pour pouvoir éloigner les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. On parle souvent de trois péchés et Richard Foster, professeur de théologie au Kansas, décrit souvent trois péchés qui reviennent tout le temps. L'argent, le sexe et le pouvoir. Et si vous avez les trois qu'on a pu voir en, malheureusement, Jeffrey Epstein, P. Diddy, toutes ces personnes qui avaient le pouvoir, le sexe et l'argent, c'est que c'est vraiment cette tendance-là qu'ils veulent prôner dans le monde. Et donc, le chrétien est appelé à ne pas aimer ces choses, à se détacher de ces choses. En 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, il est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, c'est-à-dire ses trois attraits, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » En Éphésiens 5 aussi, Paul décrit six péchés que vous pouvez voir qui sont la débauche, l'impureté, la cupidité, les paroles grossières, les propos insensés et les choses qui sont contraires à la bienséance et à la volonté de Dieu. Donc on a vu Satan, le monde, et le dernier c'est la chair. La chair qui est l'un des combats les plus intenses, qui sont nos mauvaises pensées, nos désirs, nos convoitises, qui sont seulement éliminés par la parole de Dieu et son Esprit Saint. En Galates, chapitre 5, versets 19 à 21, que vous pouvez suivre sur l'imprimé, il donne une liste des différents péchés qu'on trouve de la chair. On parle de l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ignonnerie, l'ivrognerie, pardon, les acceptables, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et donc, dans ces trois ennemis, on peut s'auto-analyser. On peut avoir des frères et sœurs qui nous reprennent si, par rapport à un sujet, on a des écarts. Je partageais à des frères et sœurs qui me demandaient des nouvelles de ma famille, comment allait ma petite sœur. Et ma petite sœur, pour ceux qui ne le savent pas, est priée pour elle. Elle s'appelle Charlotte. Et Charlotte a grandi dans l'église. Elle a même fait une implantation d'église. Mais elle a été blessée par des chrétiens. Et petit à petit, elle a été blessée. Elle a dit « Je veux vivre ma foi seule ». Et vous voyez cette nécessité de l'église, de la communauté. Elle est essentielle dans la persévérance. C'est comme une brebis qui est dans un troupeau, mais que vous voyez s'éloigner. Le loup n'est jamais loin, il attend, il guette. Et donc ma petite sœur m'a dit, il y a quelques années, je veux vivre ma foi seule. Et qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, une fille qui se disait chrétienne, c'était une sorcière qui faisait de la radiesthésie, qui faisait de la voyance, de la prière des esprits, allait de voyage en voyage pour chercher les ancêtres. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a introduit ma petite sœur dans ces choses-là. Et donc, lorsqu'on n'est pas conscient qu'il y a des ennemis, on peut vite se laisser emporter par le gré du vent et par Satan. Donc, priez pour elle, priez aussi pour toutes les personnes qui ont laissé de côté un peu leur foi face à ces ennemis, mais que Dieu, nous demande de persévérer dans la prière, dans l'intercession pour ces personnes. Dans ce nouveau chapitre, on parle aussi de ces personnes qui ont abandonné la foi. Moi, quand je pense à ma petite sœur, ma fille, Joy, prie tout le temps pour elle, chaque soir, elle persévère. Moi, une fois ou deux, trois par semaine. Mais on a ce désir de persévérer dans la prière pour nos proches qui se sont éloignés, pour ceux que nous connaissons qui se sont éloignés. Et souvent, notre question, c'est « Est-ce qu'ils t'ont déjà connu, Seigneur ?» Est-ce qu'ils ont déjà été à toi? Ou est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils sont encore sauvés? C'est une question qu'on peut se poser, hein, des personnes qui ont quitté la foi, qui ont grandi à l'Église, qui sont même baptisées, qui ont quitté la foi. On peut même se demander, est-ce qu'il perd son salut? Est-ce qu'il a déjà été sauvé? Et donc Paul Tripp nous parle de ces deux types de personnes, et on a deux exemples dans la Bible, que lorsqu'une personne arrête de persévérer, c'est soit c'est un abandon temporaire, ou soit c'était des imposteurs. Premièrement, l'abandon temporaire, c'est une personne qui est croyante, qui sincèrement veut suivre le Seigneur, qui a été touchée par la grâce de Dieu, mais qui pour un temps veut voir ce que le monde propose, ce que la chair demande, mais qui, à la fin de l'histoire, par la grâce de Dieu, revienne au Seigneur. Et c'est ce qu'on prie pour ma sœur, pour peut-être des enfants que vous avez, des parents que vous avez, que ce soit le cas, comme le fils prodigue, qui revienne à la maison. Et c'est cet exemple en Luc 15, lorsque le fils prodigue va manger avec les cochons, va dilapider l'argent de tout son père, et qui revient, et que son père dit, viens à la maison. Tu es enfin rentré à la maison. Et donc ça, c'est le cas que nous prions, c'est le cas pour les personnes qui nous entourent, qui ont abandonné temporairement la foi. Le deuxième cas qui est plus difficile pour nous d'entendre, c'est les imposteurs. On peut parler d'hypocrites. Ce sont ceux qui semblent connaître le Seigneur, qui semblent célébrer la grâce, qui semblent aimer la communion fraternelle, qui semblent donner leur vie et obéissance au Seigneur, mais qui, dans le fond, n'ont jamais été sauvés. L'exemple malheureux, c'est bien Judas. Judas, il était avec Jésus 24 heures sur 24 pendant 3 ans. Il a servi Jésus. Il a aidé lorsqu'il y avait besoin d'aide pour nourrir les malades, nourrir les personnes. Mais qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il trahit Jésus. Et donc, c'est ce deuxième cas qui est représenté par Judas qui peut-être nous fait le plus mal. Des gens qui étaient avec nous, mais qui ne sont pas de nous. L'apôtre Paul nous parle de ces cas-là. Et en Matthieu 7, versets 21 à 23, « Beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Pour conclure, nous devons tendre avec persévérance, personnellement et collectivement avec notre Église locale. Les 4 moyens de grâce que Dieu nous donne, qui sont l'enseignement, la communion fraternelle, la prière et la scène, n'ont pas changé parce qu'il y a un ennemi qui continue à travailler, qui est le Satan, le monde et la chair. Et donc, pour résumer un peu notre doctrine de la persévérance et du but de la persévérance, il y a ce qu'on appelle la chaîne de la rédemption, je ne sais pas si vous connaissez, qui se base sur Jean chapitre 10, versets 27 à 28, que c'est Dieu qui nous a élus lorsqu'il nous dit « mes brebis » qui sont régénérés parce qu'ils entendent la voix, la parole de Dieu, qui les connaît, qui les a justifiés, Dieu nous a justifiés, et qu'elles me suivent, qu'on est progressivement sanctifiés à l'image de Christ et que nous serons glorifiés parce qu'il nous donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main, dit Jésus. Et donc, on arrive dans ce dernier qui est la glorification. Lorsqu'on parle de glorification, la définition et la nature de la glorification, on peut être mal à l'aise de dire un jour, Philippe 8, je serai glorifié, Oula, il est prétentieux là, Philippe. Ou bien, Nicole, un jour, ma sœur, tu seras glorifiée. Ah bah, je veux peut-être pas aujourd'hui dire que je peux être glorifié, mais c'est exactement ce que Dieu nous dit, qu'un jour nous serons tous glorifiés. Et là, parce que nous avons la chair, les péchés, le regard des gens, on a du mal à comprendre la doctrine de la glorification. Mais lorsqu'on parle de la glorification, un des versets qui revient souvent, c'est Pierre, chapitre 1, verset 3. L'apôtre Pierre nous dit « Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Vous deveniez participants à la nature divine. Et c'est une notion qui est peut-être difficile à appréhender ou à accepter ou à vivre complètement. Et c'est cette tension entre le déjà, nous sommes déjà participants de la nature divine par l'Esprit Saint qui vit en nous, mais pas encore, parce que Jésus n'est pas encore revenu. Mais pourtant, c'est cette promesse que Dieu nous donne qu'un jour nous serons pleinement glorifiés. Et la glorification, selon Gérard Bray, c'est de prendre part à la gloire de Dieu. Je vous donne celle de Paul Tripp d'abord. La glorification des chrétiens consiste à prendre part à la gloire de Dieu lorsque nous serons dans nos corps ressuscités, dans le nouveau ciel et sur la nouvelle terre, et que nous vivrons dans une communion plus profonde avec Dieu, sans aucun risque de tomber dans le péché. Car la gloire de l'Éternel, enfin, sera tout en tous. Amen, merci. Car la gloire de l'Éternel sera enfin tout en tous. Il n'y aura pas une portion, il n'y aura pas de moitié de glorification, mais il y aura une glorification complète, parfaite, lorsque Jésus reviendra. Amen. Et donc, lorsqu'on parle de la glorification, c'est premièrement lors du retour de Christ. Lorsque le croyant meurt, son corps reste dans le cercueil, mais son âme va auprès de Dieu. Et donc, il y a une notion qui est encore incomplète de la glorification, puisque le corps est encore ici. En Jean, chapitre 14, versets 2 à 3, Jésus nous dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. En 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52, qui dit qu'en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Amen. Et la glorification, c'est celle de notre corps et de notre âme. Que lorsque Jésus reviendra, notre corps prendra la même part que Jésus ressuscité et notre âme pleinement. Lorsqu'on parle de la mort d'un chrétien, on dit souvent qu'il y a deux états, il y a deux théologies qui s'opposent. Il y en a qui disent que le corps est dans un sommeil et qui attend la glorification, et l'autre, c'est que l'âme est déjà dans la présence de Dieu. Et c'est lorsque Jésus reviendra que la glorification sera pleinement accomplie dans notre vie, dans notre nouveau corps et notre nouvelle âme. Les deux aspects, c'est premièrement, il n'y aura plus de péché. Paul Tripp dit qu'il n'y aura pas d'achèvement de notre rédemption sans les funérailles définitives du péché. Que soit Satan, le monde ou le péché de la chair, il n'y aura plus. Jésus viendra vaincre tout cela définitivement et nous serons pleinement dans sa présence. Le deuxième, c'est que nous serons pleinement à la ressemblance de Christ. C'est une promesse que non seulement le péché mourra, mais nous serons rendus parfaits dans la sainteté, revêtant la véritable ressemblance de Jésus, et nous régnerons avec lui dans la gloire pour toujours. Peut-être qu'il y a des domaines dans nos vies où nous nous battons contre la chair, où nous nous battons contre le monde, où nous nous battons contre Satan. Et prenez ce domaine dans votre vie et que vous prenez l'objectif de la glorification. Qu'un jour, tout ça, Jésus va terminer tous ces combats. On sera pleinement dans la présence de notre Seigneur et Sauveur qu'on a tant attendu et désiré. Et c'est ça la glorification, d'être avec Dieu comme son Fils, à son image, pleinement. Oh, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'on a hâte d'être à ce moment qui est notre glorification en Jésus. Et donc, les deux aspects, c'est que le péché ne sera plus et que nous serons pleinement, véritablement, à la ressemblance de Jésus. Pour conclure, nous devons être motivés par cette glorification, que ce jour où Christ reviendra, de le voir pleinement vainqueur du péché, de la mort et de Satan. Mais mes frères et sœurs, cela doit être notre motivation, notre engagement, notre espérance, notre confiance, notre courage, notre sacrifice, notre perspective. Et nous devons garder nos yeux fixés vers les réalités célestes. Souvent, on a des motivations trop petites, terrestres, de « j'aimerais que mon fils réussisse dans sa vie, dans son travail, dans la plénitude de l'abondance qu'on peut avoir dans notre société. » C'est tellement petit face à la promesse que Dieu nous dit d'être un jour glorifié en Jésus-Christ. Et donc, nous devons tendre tous nos efforts vers cet objectif, vers cette glorification. Et pour cela, ça prend des efforts en Jésus par son amour personnel, mais aussi en Église collectivement, dans l'Église locale. Pour finir, je finis avec Paul Tripp qui nous dit que nous nous soumettons à son appel, nous résistons à l'ennemi, nous le suivons par la foi, nous combattons pour persévérer et nous faisons tout cela avec joie, sachant ce qui nous a été donné et regardant avec espérance vers ce qui est à venir. Amen. Donc c'était les deux doctrines de la journée sur la persévérance et la glorification. La semaine prochaine, on aura notre dernier point sur l'éternité. Qu'est-ce qui précisément l'éternité sera? Et ce sera notre pasteur Luigi qui nous clôturera ce moment sur l'enseignement de Paul Tripp. Et voilà pour moi. Place aux questions ou des remarques si vous avez aussi des choses que vous voulez partager. Je ne sais pas si on a un micro pour l'assemblée. Tout est clair? Yes. Oui, Denis, merci. Je vais répéter ta question. Je vais. Ouais. Alors, beaucoup de gens ont abandonné la foi dans notre entourage. Ouais. 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 Et c'est Dieu qui sonde les cœurs. Nous, notre appel et tu sais ô combien nous prions pour les enfants ou les parents qui se sont éloignés. Nous, c'est de persévérer dans la prière. Je disais par rapport à ma petite sœur, je prie peut-être deux fois par semaine pour elle, mais Joy, c'est chaque soir. Je prie pour que ta auntie Charlotte revienne à toi, Seigneur, je prie. Et c'est ça, cette persévérance, cette espérance que mes enfants me rappellent de persévérer, de prier pour ma petite sœur, les frères et sœurs qui ont des enfants qui se sont éloignés. Mais c'est notre espérance qu'un jour, Dieu fasse grâce. Que je sois là ou que je ne sois pas là, mais Dieu a son temps parfait. Mais c'est sûr qu'on crie dans notre cœur que ce soit le premier cas, que ce soit un abandon temporaire comme les fils et le fils prodigue. Et c'est notre espérance de nous-mêmes persévérer dans les quatre moyens de grâce. On prie pour cela, Denis, avec espérance. Régent ?
Oui, qui me touche beaucoup, moi, savoir, Judas,
oui.
Un disciple de Dieu,
oui.
Personne s'en est rendu compte, mm-hmm. parce qu'il marche à côté, et tout ce qu'il a fait et accompli, ça me touche vraiment. Et aujourd'hui, on peut vivre une vie de même,
oui.
parce qu'on s'en rend compte.
Oui.
Mais devant Dieu, j'ai mon âme, il est mort, ça c'est dangereux.
Mm. Ça, oui, oui. Régent disait que Judas, personne ne se rendait compte qu'il allait trahir Jésus. Il servait Jésus. Hein. Il était bon, hein, un bon trésorier. Bon, il a flanché à la fin, là, mais...
Mais... Ouais.
Ouais, ouais,
ouais.
Et une chose que j'aime beaucoup à travers ma formation à l'Église Espoir et le Collège d'Anciens, c'est la redevabilité. Donc Jésus, comment il faisait des disciples? Il avait toujours la foule. Ensuite, il a choisi 12 disciples. Et parmi ces 12 disciples, il a choisi 3 qu'il aimait le plus, Pierre, Jean et Jacques. C'est une expression ici au Québec, là, mais c'est les 3 qu'il a choisis. Et c'est pareil pour nous. Nous, le dimanche, on a 300, 400, si Dieu veut, on rêve qu'il y a plus de gens qui viennent au Seigneur. Mais on met en place des groupes où l'intimité du groupe de connexion se vit, avoir cet amour, cette proximité, et c'est notre encouragement de s'investir dans les groupes. Et en voir des personnes redevables. Philippe, qu'en est-il de ton rapport par rapport à l'argent? Philippe, qu'en est-il ton rapport avec la sexualité? Philippe, quel est ton rapport avec ton ego? Tu comprends? Et donc, c'est avoir des gens qui ont tout regard sur toi pour ta sanctification et ta persévérance. Et des gens pourront dire, Yannick, il me regarde, Philippe, ça là, travaille sur ça. Tu comprends? Et donc, c'est ça l'importance de la communauté. Parce que Judas pouvait être avec les autres, mais dans son intimité, il avait déjà son cœur parti. Ouais. Merci, merci pour ton retour. Oui, Rose? Judas n'était pas? N'était pas un bon serviteur. Oui. Donner, oui, c'est ça. C'est ça, et c'est pour ça qu'on...
Oui.
Oui. Donc Rose disait que Judas n'était pas un bon serviteur parce que dans son cœur, il voulait déjà garder l'argent. Rappelez-vous quand il disait d'aller acheter et Judas dit non, mais pourquoi elle a dépensé, je crois que c'était cet épisode, pourquoi elle a dépensé tout cet argent, etc. Mais, et donc c'est pour ça que Paul Tripp parle d'imposteur. Qu'il fait semblant d'être avec Jésus, mais qu'au fond, c'est un imposteur dans son cœur. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit dans les 3 péchés hein, de Richard Foster. L'argent, le sexe et le pouvoir, ça touche le monde, mais des fois, ça peut toucher notre milieu évangélique. Et c'est pour ça qu'on a cette responsabilité de prier pour les anciens, les pasteurs, mais que nous aussi, on a cette redevabilité qu'on vit dans le collège des anciens, aussi par rapport à l'argent sur la réunion des membres. On est reconnaissant de la précision des détails qui nous sont fournis par l'équipe de Joël Neves et de la trésorerie. Et donc, mais c'est là où quand on voit les 3 péchés, peut-être un pasteur qui va avoir de l'orgueil et qui va avoir des abus spirituels, ben ça prend un collège d'anciens pour dire « Ah, ben, tu t'en vas là quelque part où, ou ce n'est pas, c'est pas la bonne direction. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre un temps de prière et on va se préparer pour la célébration à 10h30. Prions ensemble. Le Père éternel, c'est toi qui sondes les cœurs, qui sondes nos cœurs, qui sondes les cœurs de nos bien-aimés que tu aimes plus que nous, Seigneur. Seigneur, alors qu'on voit la doctrine de la persévérance, on voit, Seigneur, que ce n'est que ton amour pour nous qui nous permet de persévérer, de nous attacher à toi, de marcher à ta suite par la foi et d'avoir cette espérance que tu es à l'œuvre et que tu es souverain. Seigneur, on te prie d'ouvrir nos emplois du temps pour les uns les autres. Ah, je suis toujours attristé lorsque je vois que plus de 1 million de personnes à Montréal vivent seules. Et Seigneur, tu n'as pas voulu cela. Tu veux des églises qui s'unissent, qui mangent ensemble, qui s'entretiennent, qui portent les fardeaux des uns des autres. Et Seigneur, je te prie d'ouvrir nos cœurs, nos maisons, nos emplois du temps pour être les uns avec les autres. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour l'enseignement que nous avons ici de qualité que tu donnes aux pasteurs. Et oui, Seigneur, on te prie de garder nos parents, nos enfants, notre entourage qui se sont éloignés de toi. Seigneur, tu vois combien cela nous fait mal, mais encore plus toi, Seigneur. Et on te prie de faire grâce, de nous aider en tant qu'Église à persévérer dans l'intercession pour ces enfants que tu nous as confiés, ces familles que tu nous as mis dans cette vie sur terre, Seigneur. Donc oui, Seigneur, permets-nous de garder cette espérance de la glorification. Qu'un jour que nous serons pleinement semblables à toi, Christ, où le péché ne sera même plus une idée dans notre pensée, mais que nous serons pleinement dans ta présence, dans ta maison. Oh Seigneur, combien nous avons hâte et combien, Seigneur, nous savons que nous avons besoin de toi, de ta bonne nouvelle dans nos vies quotidiennement pour persévérer. On soit avec chacun d'entre nous ici. Bénis aussi la célébration que nous allons avoir. Prépare les cœurs à recevoir ta parole et que toute la gloire te soit rendue et que ton nom soit connu de tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à tous.